nous sommes tous contents. Nous voudrions embrasser tous les Américains, tous les Anglais qui sont ici. Oh, je suis très, très
vive heureuse. New York.
Vive les Canadiens, vive la France.
Vive New York.
Depuis le temps qu'on les attend.
Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec toutes ces images de la libération et notamment toutes ces images de l'accueil formidable fait aux soldats par les populations françaises.
Des GIs et des femmes.
C'est comme ça les rues de Paris, mes amis. Ça n'a pas changé, Paris.
Si,
ça a changé.
Nous embrassons tous ceux qui nous écoutent.
Des silences et la potence.
Les soldats américains arrivaient avec cette idée que les Françaises étaient très disponibles sexuellement, étaient très, très libres et qu'elles sauraient bien les récompenser. Voilà, et c'était quelque chose qui circulait au sein de l'armée, qui était relativement encouragé par l'armée comme discours, tout plein de sous-entendus. Vous verrez, les femmes seront accueillantes, elles vous accueilleront bien, y compris dans leur lit.
Nous sommes bien contents d'avoir les Américains à Paris et enfin.
Et les Français, ils sont venus surtout ce matin.
Ah hein, oui, mais comment voilà. Les Anglais aussi.
C'était forcément les Américains qui attendions.
Vive l'Angleterre,
vive l'Amérique.
En octobre 1944, le préfet de police américain présente à son supérieur le recensement des crimes commis sur le sol français par les GI. 152 soldats ont été jugés pour viol et 139 sont des soldats africains-américains. Or, les soldats noirs composent moins de 10% du contingent. Difficile à croire, n'est-ce pas? Les images des GI venant délivrer Paris, entourés par des femmes et des enfants, sont devenues le décor de la libération. Mais ces scènes de liesse ne peuvent occuper à elles seules la mémoire de la libération. Philippe Baron, quand on regarde ces images, là, tous les baisers sont-ils consentis?
Nous sommes tellement contents. Oh, nous sommes tellement contents. Very happy.
Quand on regarde ces images-là vraiment attentivement, de plus près, bon, voilà, on voit qu'il y en a une partie qui sont mises en scène, et puis une partie des soldats sont très insistants, tentent de voler des baisers, tentent d'embrasser les femmes sur la bouche. Bien sûr, j'ai gardé ces images-là, en les mettant parfois au ralenti, pour montrer toute cette ambiguïté, quoi, voilà, et qui colle avec les récits multiples qu'on a d'Américains qui sont souvent très insistants, qui vont chercher. Alors la formule à l'époque, c'était « Mademoiselle, voulez-vous faire zig-zig avec moi ?»
La maisonnette ne comprenait qu'une seule pièce, au sol de terre battue. Au fond de la pièce, une jeune fille, occupée devant un fourneau. « Il s'est passé ici une tresse à l'affaire », m'a dit le lieutenant Stone en déposant son porte-document sur la table. Voulez-vous demander à cette femme? Ask the witness to tell in his own words. Il voulait savoir d'où provenaient ces écorchures qu'elle portait sur le visage.
Louis Guilloux, à ce moment-là, en 1944, c'est un écrivain qui a 45 ans, qui vit à Saint-Brieuc. Il parle l'anglais, il a appris l'anglais tout seul, comme un autodidacte, mais il le parle suffisamment bien pour avoir été traducteur, et va se retrouver embarqué un peu par hasard. Voilà, un jour, des officiers américains arrivent, ils disent « oui, on a besoin d'un traducteur », hop, Guilloux monte dans la Jeep, et puis part, sans savoir où il va, sans savoir qu'il s'agit d'enquête sur des exactions commises par des Américains. Et d'ailleurs, les Américains savent pas non plus à qui ils ont affaire, que c'est un écrivain connu, qui a un sens de l'observation extrêmement affûté. Et voilà, l'histoire commence comme ça.
Ask the witness. Demandez au témoin. À quelle heure le drame s'est-il produit? La nuit était-elle tombée? La jeune fille s'était-elle rendue au camp? Avait-elle parlé à l'un des hommes? Ask her. Demandez-lui. Oui, la jeune fille était allée au camp. Demandez-lui pourquoi faire. Pour voir, comme tout le monde, a répondu la mère. On disait qu'ils étaient si gentils. Pourquoi n'y serait-elle pas allée comme les autres? Tout le monde y était allé.
C'est difficile hein, de se remettre à la place et puis de se remettre dans cette ambiance très chaotique, quand même terriblement chaotique, quoi, où je veux dire, où c'est... Voilà, les gars, ils arrivent des plages du débarquement. Il y en a qui sont fous, hein, il y en a qui ça a rendu fou. Il y a un alcoolisme, mais massif, et puis avec des alcools extrêmement forts. Puis en face, voilà, la misère. Je trouve que c'est compliqué de se remettre dans l'état d'esprit de l'époque aussi.
Je me rappelle de cette nuit-là. Ouais. Ça, c'est à cause des femmes qui sont venues se perdre autour de notre exploitation, qui ont loupé les Américains. Hein? Et ils ont donné plein de choses aux femmes pour... ils avaient beaucoup de choses, de nourriture et tout ça. Et eux, ils ont donné aux femmes, quand les femmes ont eu assez de choses, elles sont parties. Donc eux croyaient qu'ils auraient profité d'autre chose, sans doute.
Ils se retrouvent face à des populations de femmes qui sont ben, non pas forcément disponibles pour coucher avec les soldats, mais en tout cas qui sont à vide, en recherche de nourriture, de quoi survivre. Donc ça crée un sacré malentendu. Moi, je repense à cet entretien que j'ai eu avec une vieille dame qui se souvient de la nuit où son père a été assassiné en défendant sa sœur aînée qui était agressée par un soldat. Et elle dit, tout ça, c'était la faute des femmes qui galopaient après les Américains. Il y avait aussi ce climat-là. Quoi.
C'est vrai que je pense qu'il y a vraiment toute une gamme de relations entre les soldats et les femmes françaises. Je veux dire, ça va de... Oui, on a eu des histoires d'amour, il y a eu des flirts, il y a eu des histoires sans doute purement sexuelles d'un soir consenti. Et puis, il y a eu beaucoup de prostitution. Et j'ai envie de dire que les bordels étaient débordés un peu partout. Et puis, il y avait ce qu'on pourrait appeler de la prostitution occasionnelle. Et puis, il y avait... des femmes qui cherchaient à nourrir leur famille parce que c'était vraiment la misère et que voilà pour trois paquets de café et quelques conserves qui se sont peut-être laissées faire. Voilà. Et après, voilà, il y avait aussi ces gars qui, dans des états d'ivresse terribles à chaque fois, hein, ça, c'est quelque chose qui revient dans tous les récits, souvent en groupe. Profitaient de leurs forces, de leurs armes pour abuser des femmes, des fois dans des conditions très sordides.
Par la fenêtre, la jeune fille avait aperçu la silhouette d'un soldat. Le soldat avait appelé « Mademoiselle ». Aussitôt, la mère avait fermé les volets, tandis que le père verrouillait la porte. Le père a crié au soldat de s'en aller. « Il n'y a pas ici de mademoiselle pour vous ». Le lieutenant Stone a voulu savoir si le père n'avait pas injurié le soldat. Si, par exemple, il ne l'avait pas traité de sale nègre.
Marie-Louise Roberts, historienne.
Black GIs were stationary.
Les GI noirs étaient en poste à l'intendance. Ils étaient stationnaires. Ils n'étaient pas engagés comme combattants en Normandie. Ils déchargeaient les bateaux. Ils apportaient de l'essence aux troupes. Donc il était plus facile de les accuser de viol parce qu'ils étaient sur place. Alors que les soldats blancs se déplaceront pendant l'été 1944. Ils pouvaient donc violer une femme et repartir le lendemain.
l'accusé s'appelle James Hendricks. Soldat de deuxième classe, il est inculpé de meurtre avec préméditation et tentative de viol. Seul noir dans une assemblée de blancs. Il garde le silence pendant tout son procès. La cour est composée d'une dizaine d'officiers.
Difficile hein, de se mettre dans la peau d'un soldat, jeune homme, racisé, qui a déjà connu l'humiliation dans sa vie civile, qui a probablement placé un certain nombre d'espoirs à l'égard de la vie militaire.
Pauline Peretz, historienne.
Des espoirs d'éducation qu'il n'a pas nécessairement eu dans sa vie civile, des espoirs de reconnaissance de ses qualités militaires, mais aussi de son sacrifice à la nation. Alors, il y a une forme de reconnaissance qui est une reconnaissance par la rétribution financière, qui est importante pour les soldats noirs, pour lesquels beaucoup la vie civile a été une vie de chômage à la suite de la Grande Dépression. Donc, il y a effectivement une reconnaissance financière, mais qui ne suffit pas à laver, à faire oublier une humiliation qui est quasi permanente dans les expériences d'entraînement. Et puis, il y a cette incertitude permanente sur ce qui va leur arriver. Est-ce qu'ils vont être autorisés à aller combattre ou pas ?
On sait très peu de choses sur le soldat Hendricks. Enfant adopté de Caroline du Nord, il passe par le camp d'entraînement de Cap Van Dorn. Ce type de camp d'entraînement perpétue la tradition de ségrégation complète de l'armée américaine. Ces camps sont situés dans des zones désertiques proches des frontières. L'isolement y est presque total. Les hommes noirs y vivent une formation militaire rude et humiliante. Que se passe-t-il dans ce camp avant le débarquement ? Pauline Peretz.
En fait, cette histoire est un peu compliquée parce qu'il y a eu une publication qui a fait beaucoup débat sur un massacre qui aurait eu lieu à Camp Van Dorn, donc une répression. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller regarder Camp Van Dorn pour se dire qu'il y a eu des cas de répression par le sang dans d'autres lieux.
Des émeutes dans des camps d'entraînement.
Oui, des émeutes dans des camps d'entraînement, des émeutes également dans les villes américaines et qui semblent en fait se diffuser comme une poudrière et qui font très peur à l'état-major. Donc faire sortir les soldats de ces camps, ça apparaît comme une solution au moins provisoire. La peur d'une diffusion de ces émeutes à l'extérieur du camp engage l'état-major à l'application d'une justice martiale expéditive et extrêmement sévère. Dans le camp que j'ai étudié, Fort Huachuca, à deux reprises, la peine capitale a été mise en place, a été appliquée. Ces peines capitales, elles sont appliquées par la pendaison, qui a lieu de nuit, de manière cachée, et qui est bien évidemment extrêmement humiliante, et qui n'est pas sans rejouer des expériences de lynchage dans la société civile américaine qui avait encore lieu dans l'entre-deux-guerres dans le sud des États-Unis. Donc il s'agit d'une justice militaire structurellement raciste, structurellement sévère de manière disproportionnée à l'encontre des Africains-Américains. Et donc le déploiement sur les théâtres d'opération apparaît comme une solution, un exutoire. Et puis par ailleurs, il commence à avoir beaucoup de pertes sur les théâtres et des besoins de davantage d'hommes.
Derrière les barbelés, quelques prisonniers jouaient à se lancer des balles. Ils portaient tous des chaussures sans lacets. Aucun n'avait de veste. Presque tous des hommes de couleur. Vous savez, c'est là qu'il est, le meurtrier du père de la fille. Il plaidera coupable. Et alors ? Et alors ? Il sera pendu.
Il est évident que la répression des crimes et délits va passer par un certain nombre de biais.
Olivier Wieworka, historien.
Et donc Marie-Lou Roberts, mais également Alice Kaplan, ont bien montré dans leur livre
que les Noirs avaient été plus sanctionnés que les Blancs et que vous aviez, au fond, une sévérité qui était à géométrie variable, ce qui est un fait indéniable. Il n'en reste pas moins vrai que même si vous avez un racisme dans les jugements et même si vous avez un biais, il y a sanction et il y a jugement. Et il n'y a pas impunité, même si, bien évidemment, c'est une justice qui est inégale, une justice qui est à deux vitesses. Je ne crois pas que l'état-major laisse des violeurs, laisse des criminels agir en toute impunité. Je ne le crois pas, même si ensuite, lorsque des officiers blancs sont capturés, ils ont droit à des jugements beaucoup plus indulgents que si cela avait été des soldats noirs.
Comment expliquez-vous que principalement des hommes noirs aient été jugés ?
L'explication, elle se trouve dans le racisme de l'armée américaine, qui est enfin, coup d'officier sudiste, des tas de préjugés racistes, mais aussi voilà, des officiers blancs qui vont hésiter à poursuivre des soldats blancs en disant bon, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le renvoyer au front, est-ce qu'il ne sera pas plus utile là-bas. Je pense que c'est ça la raison. Après, il y a eu une volonté de la part de l'armée américaine. L'armée américaine n'a condamné à mort pour des viols que des soldats noirs. Il n'y a pas eu de soldats blancs, à ma connaissance, qui ont été condamnés à mort pour des faits de viol. En revanche, il y a eu plusieurs dizaines de soldats afro-américains qui l'ont été. Et les condamnations étaient suivies d'exécutions, souvent en public. Donc il y avait quand même l'idée, chez les Américains, de faire des exemples et de marquer les esprits. Et c'était une façon de dire, le problème, ce n'est pas les soldats américains, c'est les Noirs. Voilà. D'en faire des boucs émissaires permettait de tenir implicitement ce discours-là. L'armée était, l'honneur était sauf.
De nouveaux jours se sont passés. La cour martiale assiégée presque chaque matin. Et à chaque fois, l'accusé était un noir. Et l'accusation toujours la même. Un matin, il y en a eu 4. Ils n'ont pas dit un mot. Pourquoi se taisait-il ainsi? Pourquoi plaidait-il toujours coupable? J'ai fini par le demander à Bob. Mais parce qu'ils le sont coupables. Mais pourquoi toujours des noirs, Bob? Ah, c'est un sacré problème. Je sais, Bob. Il paraît qu'il faut être américain pour le comprendre. Mais pourquoi rien que des noirs? Ce n'est pas un tribunal spécial pour les noirs. Il s'est presque indigné. Comment une pareille idée pouvait-elle me passer par la tête? Un tribunal spécial? Bien sûr que non. Bien sûr que non.
Ce qui est très dérangeant, c'est de voir comment une armée, qui est l'émanation d'un État fédéral, qui essaie de ségréguer, va en fait importer et amplifier une culture raciste du Sud dans ses rangs. Donc ce qu'on voit pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un racisme structurel issu du Sud qui va irriguer les rangs de l'armée grâce, sous l'effet en fait, de ces commandants et officiers blancs haut gradés. Donc les gens qui vont juger à telle ou telle cour martiale en France ne sont pas nécessairement eux-mêmes issus du Sud, mais ils ont été formés par ces gens-là. Et le fantasme le plus prégnant, le plus puissant, celui qui provoque le plus de haine, c'est le fantasme d'hypersexualité des Africains américains. Donc ce sont des gens qui ont été éduqués à la fois dans la vie civile et dans la vie militaire à ce mépris, en fait, hein, des hommes noirs et à perpétuer ce type de préjugés à leur égard.
Quand on lit les minutes des procès, quand un soldat noir a commis un viol, on va croire systématiquement la femme. Voilà. Quand c'est un viol qui a été commis par un soldat blanc, ça va être davantage parole contre parole, mais vous êtes sûr, madame, et le blanc va beaucoup plus se défendre. Donc ça, c'est assez flagrant.
La jeune femme a raconté comment, étant allée faire une course hors du village, elle avait rencontré le soldat noir qui s'était approché d'elle très gentiment et lui avait parlé en souriant pour commencer. Puis il lui avait pris le bras. Elle s'était débattue. Il l'avait entraînée de force dans un bosquet. Et là, il l'avait violée. Il m'a violée. J'ai traduit. Aussitôt, le lieutenant-colonel Marquez a relevé la tête. « Non, » a-t-il dit, « le témoin ne peut pas dire cela. » Ce mot ne peut pas figurer au procès-verbal. C'est à la cour de conclure si le viol a été consommé ou non. Il s'est tourné vers Bob. Posez au témoin des questions précises. Bob a repris son souffle. J'ai vu son visage se crisper. Après effort, il a fini par dire « Ask the witness, demandez au témoin. Did he put his private parts into her private parts? » J'ai traduit. La jeune femme n'a pas répondu tout de suite. Dans le silence qui a suivi, chacun retenait son souffle.
Guillou, il est toujours du côté des petites gens, du côté de la douleur des uns et des autres. Il ne s'exonère pas de cette propre responsabilité. Voilà, lui s'est retrouvé interprète pour l'armée américaine. Donc il s'est retrouvé un petit maillon de la chaîne, il s'est retrouvé auxiliaire de justice, de cette justice expéditive. Et il se retrouve mal à l'aise avec ça. Il dit, bah oui, est-ce que j'aurais dû accepter? À un moment, il dit, bah oui, j'aurais sans doute pas dû accepter. Mais voilà, il remet en cause sa propre responsabilité. Et c'est une position pour lui qui est vraiment délicate et impossible. Qui est-il pour dire la vérité, pour prétendre avoir la vérité? C'est une position qui le met très mal à l'aise. Enfin, il y a un moment, il est clairement en face de ses limites, des limites de l'exercice. Il y a des moments où on ne peut pas traduire. Il y a eu une omerta sur ces exactions. Il y a eu une sorte de honte aussi. Et puis, ça allait à l'encontre du récit majoritaire, quoi. Le récit du libérateur héroïque, pur et sans tache. Donc, c'est extrêmement compliqué d'en dire du mal, de gâcher la fête. Donc, c'est resté comme ça, juste au sein des familles. Ça s'est un peu transmis au sein des familles, mais sinon, oui, il y a une chape de silence terrible sur ces histoires.
Ma mère était traumatisée. Pendant pas mal d'années, elle a eu des soucis de santé. Elle me disait qu'elle avait la peau qui se décollait tellement son corps subissait le traumatisme. Et elle disait, dans son jargon à elle, « mon sang a tourné ».
Voilà, on sent bien que ces histoires-là ont circulé dans des familles, se sont un peu transmises, mais ça n'a jamais été au-delà. Et avec si on s'en tient simplement aux archives de la justice, bon, c'est la partie immergée de l'iceberg, quoi. Mais on ne saura jamais combien il y en a en dessous. Et bon, moi, j'ai rencontré un certain nombre de vieilles dames aussi, voilà, mais qui ne souhaitaient pas témoigner, voilà, qui avaient ces souvenirs douloureux et qu'elles emporteront dans la tombe. Donc, il y a cette dimension voilà, d'agression sexuelle qui ne se dit pas. Or, c'est quand même très récent que les choses se disent de ce point de vue-là. est-ce qu'elle l'a pas cherché un peu, quoi, quand même, hein? C'est quand même la question que se pose l'entourage, que se posent les voisins, que se pose l'Église, dans des sociétés villageoises où c'est quand même très fort. Donc, ça explique aussi ce silence.
Moi, ma mère, elle m'en a parlé. Mais quand on a commencé à parler, elle m'a dit... Ma mère m'a dit... T'as que ça à faire. T'as cerclé ton jardin? J'ai dit non. Eh ben, il est temps que t'ailles. Tu vois? C'était clos.
Au fait, où les pendait-on? Et qui était le bourreau? Cela se passait sans doute au petit matin, comme partout au monde, là où l'on pend, où l'on fusille, où l'on coupe les têtes.
Cette punition, la pendaison, cette sanction, c'est la sanction extrême qui est la plus rapidement infligée, qui permet de rejouer sur le sol français des situations de pendaison par lynchage qui ont eu lieu dans le sud des États-Unis à l'initiative de foules racistes. Je pense que cet acte n'est pas lu de la même manière par les officiers qui l'infligent, par les soldats noirs ou blancs qui en sont témoins, d'une part, et par la population française qui va assister à ce spectacle.
Merci à tous.
This is a PWD dispatch for BBC European Service and ABC. Emlyn Edding speaking to you from Paris.
Merci à Philippe Baron, Pauline Peretz, Olivier Vévorka, Marie-Louise Roberts. Voix, Élodie Hubert, Emmanuel Lemire. Documentation INA, Aude Vincent. Prise de son, Yvan Turc et Dofar Guéride. Au mixage, Claire Levasseur. Attachée d'émission, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Des GIs et des femmes, un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Franck Leland.